Donc, oui, on entre dans un univers mental qui ne nous est pas familier du tout. C'est assez curieux d'ailleurs parce que les pères de l'Église, c'est encore plus lointain, mais quand on les lit, peut-être parce que c'est beaucoup des sermons, des prédications, on entre assez facilement. Je ne dis pas qu'on entre facilement dans le De Trinitate, mais dans les prédications des pères, on entre assez facilement. Tandis que là, nous allons entrer dans quelque chose qui est plus difficile. Je vais essayer de présenter la manière la plus simple possible, qui est au XIIIe siècle, la morale de saint Thomas d'Aquin. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la morale de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle représente, c'est ce que j'ai essayé de dire cet après-midi, représente l'acmé, hein, le point d'orgue, le point d'équilibre, tout ce que vous voulez, de la théologie médiévale, et pas seulement de la théologie médiévale, mais aussi de... Saint Thomas d'Aquin est considéré comme, je l'ai dit, je crois, en terminant l'autre jour, le docteur commun de l'Église, c'est-à-dire le, peut-être on pourrait dire le théologien officiel de l'Église catholique, dont l'enseignement est repris aujourd'hui encore, hein, chaque fois qu'il y a une encyclique. Si vous faites attention à ça, à chaque fois qu'il y a une encyclique, saint Thomas d'Aquin est cité dans les notes. Alors parfois, c'est un peu de manière artificielle ou anecdotique, mais il est toujours cité. Donc, ce n'est pas du tout parce qu'on parle du XIIIe siècle que c'est terminé. Au contraire, c'est une pensée théologique qui rayonne encore jusqu'à aujourd'hui, hein, dont on se sert encore aujourd'hui. Alors, j'avais l'habitude de dire quand les cours étaient en présentiel que, je ne sais pas où ils en sont, mais que la bibliothèque du CIF ne possède pas la somme de théologie. Dommage, parce que c'est le texte de saint Thomas qui était considéré comme la théologie pour les débutants à l'époque. Alors, je vais vous montrer, alors je vais faire un effort supplémentaire par rapport à cet après-midi, je vais vous montrer la totalité de la somme de théologie. Donc, ne bougez pas, j'en reviens.
Combien de volumes?
Ça fait deux. Deux tomes. Je vous montre les suivants. Je vais essayer de vous montrer les quatre s'ils ne tombent pas. Hein, ne quittez pas. Ah, évidemment, c'est tombé. Voilà. La somme de théologie. Quatre volumes. Vous voyez, c'est bien pour le prochain confinement. Hein, quatre volumes. Alors, quatre volumes, sachant que enfin, l'édition que je vous montre est une édition qui date de 1994. Je vous en montre un tome. C'est une édition qui date de 1994. C'est la dernière en français, mais je crois, enfin, je sais qu'il y en a une autre en préparation ou qui est sur le point d'être publiée, parce que vous savez, à chaque fois qu'on fait une traduction, vous trouvez toujours des gens plus intelligents que vous qui vous disent que vous avez très mal traduit. Et donc, c'est affreux, c'est mal traduit, c'est indécent, c'est indigne. Et donc, ils arrivent à convaincre un éditeur qu'il faut retraduire. Et donc, pour la somme de théologie, c'est pareil. Donc, moi, j'ai cette édition-là. La plupart des gens, je crois, ont encore cette édition-là, donc en quatre volumes. Alors, c'est l'avantage, le seul avantage du présentiel. Ah, c'est que je peux vous montrer des choses que je ne montre pas en présentiel parce que je ne prends pas ça dans ma mallette quand je fais cours. Hein. Voilà l'intérieur. Bon, ça ne vous renseigne pas beaucoup. Hein. Mais la somme de théologie, vous voyez les quatre volumes, hein, au Moyen-Âge, c'était la théologie pour les nuls, la théologie pour les débutants. C'est-à-dire que saint Thomas a écrit cet ouvrage pour les débutants. Je ne vous dis pas les quatre volumes. Les débutants, en principe, c'est nous, là. Donc, normalement, ça nous concerne. Hein. Quatre volumes comme ça. Cet ouvrage, La Somme de théologie, il a écrit plein d'autres choses, il a écrit d'autres sommes. Et ce que j'ai oublié de dire ce matin, c'est que saint Thomas a écrit aussi des commentaires de l'écriture. On a des prédications, on a des commentaires de l'écriture, que moi je trouve extrêmement rébarbatifs, mais il y a des gens qui trouvent ça très bien, donc je ne vais, vais surtout pas les décevoir. Mais l'ouvrage de référence, classique, hyper classique en théologie, c'est la Somme de théologie. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec cet ouvrage, qu'on le trouve obsolète ou pas, il est le texte de référence encore aujourd'hui pour la théologie catholique. Hein? Alors, c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, dans n'importe quel parcours de théologie, sur n'importe quelle d'ailleurs discipline de la théologie, la sacramentelle, la Bible, n'importe quoi, enfin la théologie trinitaire, et pour nous la morale, il y a forcément un moment incontournable qui est le moment de saint Thomas d'Aquin, parce qu'une partie de sa théologie morale est encore une large partie en usage aujourd'hui. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter de façon la plus pédagogique possible, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que si vous n'avez jamais ouvert la Somme de théologie, si vous n'avez jamais lu une ligne de saint Thomas d'Aquin, c'est un petit peu un monde avec un vocabulaire un peu particulier, une façon de raisonner un peu particulier, et on n'entre pas toujours facilement dans ce type de monde quand on l'ignore complètement. Cela dit, c'est pas plus facile de lire Nietzsche, Marx ou les autres, hein, je sais pas moi, Leibniz. Quand on connaît pas, qu'on n'a pas les codes, les clés, qu'on ne connaît pas ces univers mentaux là, c'est pas évident. Hein. Et saint Thomas d'Aquin, malheureusement, c'est pas tout à fait simple. Enfin, si je suis arrivé, je pense que vous pouvez y arriver aussi. Donc, la Somme de théologie qui est là présentée en 4 volumes, en fait, c'est une mauvaise. Ça vous donne une mauvaise idée parce qu'en réalité, la Somme de théologie, elle comporte 3 parties. Trois parties, et c'est une somme qui est inachevée, puisque saint Thomas d'Aquin est mort avant de l'avoir achevé. Hein, il est même mort, je ne vous dis pas le lapsus, il est mort avant de l'avoir acheté. Oui. Donc, il est mort avant de l'avoir achevé, et il est mort sur la route du Concile de Lyon. Et donc, c'est très embêtant, pas pour nous, hein. Parce que nous, on fait de la morale, et il a eu le temps d'écrire la partie morale de la Somme. Par contre, il y a des manques dans la Somme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ecclésiologie dans la Somme. Plus exactement, il n'y a pas de traité sur l'Église. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, saint Thomas ne parle pas de l'Église, hein, il en parle, mais il n'y a pas un traité en bonne et due forme. Il est mort avant de le rédiger. Et même la théologie des sacrements a été interrompue. Bon, mais pour la morale, tout va bien, si j'ose dire. Il a eu le temps de la rédiger totalement. Alors, la Somme de théologie est présentée habituellement, et c'est un peu une caricature, mais comme toutes les caricatures, il y a quand même du vrai, est présentée habituellement comme la cathédrale spéculative, la cathédrale de la théologie. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette somme de théologie représente la synthèse la plus équilibrée entre la foi et la raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait mieux avant et on n'a pas fait mieux depuis. On parle d'elle aussi, de cette somme de théologie, comme une cathédrale, parce qu'effectivement, là je suis en train de vous dire, dans la Somme, il y a une partie morale qui va nous intéresser en particulier. Mais cette Somme de théologie est écrite fonctionne comme une cathédrale, c'est-à-dire en réalité c'est très difficile d'isoler une partie morale du tout, hein, un peu comme il est difficile dans une cathédrale, surtout si elle a brûlé, en partie, d'isoler la charpente des tours. c'est-à-dire d'isoler la nef du chœur, parce qu'on ne comprend plus rien à l'ensemble. Donc l'idée de cathédrale, c'est pour montrer que tous les éléments de la somme de théologie sont connectés, hein, sont interdépendants. Et la morale aussi. Alors, il y a trois parties dans la somme. La première partie est sur Dieu, la seconde partie est sur la morale, je simplifie, mais c'est ça. La troisième partie est sur le Christ et les sacrements. Et puis l'Église, ben, il n'a pas eu le temps, comme je vous l'ai dit, et même les sacrements, il n'a pas fini. Donc si on veut chercher une partie morale dans la somme de théologie, c'est dans la deuxième partie qu'il faut aller. Alors, si vous n'avez jamais entendu ça, même sur Internet, si vous cherchez après des articles enfin, sur Saint Thomas, des travaux sur Saint Thomas, vous verrez qu'il y a une nomenclature un peu curieuse, quand on n'est pas familier avec Saint Thomas, qui consiste à, pour identifier les parties de la somme, à les identifier avec des lettres romaines. Alors, je sais bien que les lettres romaines, ce n'est plus à la mode, puisque dès qu'on fait une exposition maintenant en France, on supprime les lettres romaines, et quand on supprime, évidemment, ce qu'on ne comprend pas, on le supprime, c'est merveilleux, hein. Et plutôt que d'apprendre les lettres romaines, on les supprime, c'est complètement idiot, comme tout ce qu'on supprime dans la culture, puisque si vous supprimez les lettres romaines, personne ne comprendra plus la somme de théologie. Vous voyez, c'est déjà une idiotie magistrale. Et dans la somme de théologie, je fais des petits dessins pour vos collègues de l'après-midi, donc je vais vous les remontrer, mais c'est sympathique, c'est une séance avec des petits dessins, c'est rigolo, hein. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ma jolie écriture, c'est la façon de nommer les différentes parties de la somme. Alors ne vous affolez pas, ce n'est pas des hiéroglyphes, je vous explique. La première partie, ici, elle a un chiffre romain qui est 1, jusque-là vous me suivez, prima, on l'appelle la prima, premier, 1. Et on met un petit A là, c'est un petit A là, hein. Prima. Si vous l'écrivez seul, comme ça, bon, vous citez la prima pars, la première partie. Pour indiquer la deuxième partie, on écrit le chiffre romain 2, segunda, et pour signifier la troisième partie, hein, vous avez bien compris, on écrit 3 et on met le A derrière, tertia, prima, segunda, tertia. Ici, le chiffre romain 2, avec ce que j'ai voulu écrire là, c'est-à-dire AE, c'est-à-dire l'abréviation du génitif latin, pour ceux qui ont fait du latin, segunde. Hein. Donc, prima segunde, ça veut dire dans la première partie, la seconde partie de la première partie. Prima segunde. Vous suivez ? Puis on aurait très bien pu écrire, je ne sais pas moi, segunda segunde. Alors, segunda segunde, c'est la deuxième partie de la deuxième partie, etc. Alors, on note, donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur saint Thomas, je suis obligé de vous raconter ça, même si c'est fastidieux, parce que c'est constamment comme ça que l'on note, soit manuellement, soit d'ailleurs avec l'ordinateur, les différentes parties de la somme, parce que depuis le Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on les écrit. Prima, segunde, virgule. Ici, c'est la lettre Q pour question. Questio en latin, question. Alors vous avez le chiffre après de la question, j'ai mis question 1, point, ensuite A pour article, et le numéro de l'article, je ne sais pas ce que c'est là, article 2. Autrement dit, la référence que vous avez sous les yeux, c'est prima, segunde, question 1, article 2. Donc vous êtes dans la seconde partie de la première partie, la première question, l'article 2. Parce que saint Thomas, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois, écrit en théologie avec des dossiers. théologique qu'il répartit en questions. Et dans chaque question, dans chaque question, vous avez des articles. Alors, il y en a plus ou moins, hein, ça, il peut y avoir 5, 6, 10 articles. Il y a des questions qui sont plus ou moins longues. Hein. D'ailleurs, si j'avais voulu être tout à fait complet, après article 2, on peut encore rentrer dans le détail. Saint Thomas écrit S-O-L, sol, pour solution. C'est-à-dire, quand il a fini de traiter une question de théologie, il écrit à la fin tout à fait solution. C'est-à-dire, c'est sa décision théologique. Solution, en général, il y en a une, deux ou trois. Voilà. Alors, dans la somme de théologie, vous avez la deuxième partie qui est consacrée à la morale. Méfions-nous, puisque comme nous sommes dans une cathédrale théologique, il y a une partie de morale, mais qui n'a de sens que référée aux autres parties. Hein. La première partie, je vous ai dit, c'est sur Dieu. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez tout de suite que la morale est seconde. Tout théologien, même moraliste, s'occupe d'abord, c'est la bonne idée quand même, hein, s'occupe d'abord de Dieu avant de faire de la morale ou avant de parler de morale. Hein? Et puis, alors c'est très important, et dans la partie morale, qui est donc au centre de la somme, qui est la segunda pars, la deuxième partie est introduite par un traité, un très joli traité, sur la béatitude. Qu'est-ce que la béatitude ? Là encore, c'est un vocabulaire, vous voyez, auquel on n'est pas forcément habitué. La béatitude, c'est l'éternité. C'est l'éternité avec Dieu, c'est le bonheur en Dieu. C'est aussi ce qu'on appelait au Moyen-Âge la vision béatifique. C'est-à-dire le but de la vie, c'est de contempler Dieu à la fin de nos jours. Hein. Et donc, c'est la citation de... On peut citer Job, hein, de mes yeux de chair, je verrai mon Rédempteur vivant. C'est la vision béatifique. Donc, le traité moral, si vous voulez, la partie morale, je ne sais pas comment dire, de saint Thomas d'Aquin, dans la Somme, est précédé du traité sur la béatitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de morale sans faire précéder la morale du but. Le but ultime de la morale, hein, c'est contempler Dieu, c'est voir Dieu, c'est vivre avec lui, c'est l'éternité bienheureuse. Hein. On parle de béatitude non pas parce qu'on est béat, hein, parce qu'en latin, heureux, bienheureux, ça se dit beati. Beatus, beati au pluriel. Hein. Donc, c'est très intéressant aussi parce que Saint Thomas indique d'emblée que on ne peut pas séparer, on ne peut pas déconnecter une réflexion de théologie morale d'une réflexion plus importante, plus englobante, qui est une réflexion sur la béatitude, c'est-à-dire sur l'eschatologie, sur la vie avec Dieu, sur la vie en Dieu. Ça n'a pas de sens de faire de la théologie morale pour elle-même. Si vous voulez, si on fait de la théologie morale pour elle-même, ça devient une morale et il n'y a plus de théologie. Ça, c'est un point commun que saint Thomas partage avec Augustin. Si vous avez eu le temps, si vous avez envie de lire les confessions, ne serait-ce que les confessions d'Augustin, bien entendu, le but de la vie humaine, le but de la morale, le but d'un comportement moral, c'est de pouvoir accéder un jour au royaume de Dieu. Donc ça, c'est saint Augustin comme saint Thomas sont ce qu'on appelle des... Il y a un mot savant pour dire ça, ce sont des eudémonismes. Eudémonisme, vous affolez pas, ça veut juste dire, c'est d'un mot grec qui veut dire morale du bonheur. Donc on parle de saint Thomas comme d'un eudémonisme chrétien. Le but du comportement moral, c'est d'accéder au royaume. Bon, c'est, pour le coup, c'est assez proche de ce que disaient les pères de l'Église, puisque les pères de l'Église ont utilisé une autre image que je ne pense pas avoir développée avec vous la dernière fois, mais ils utilisent l'image suivante. La vie, ils commentent le verset de la Genèse, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le péché nous a fait perdre la ressemblance, disent les pères de l'Église, surtout saint Irénée. Le péché nous a fait perdre la ressemblance. Le but de la vie humaine, c'est de retrouver la ressemblance, si vous voulez, par une vie morale. Vous savez que pour saint Irénée de Lyon, par exemple, même dans le péché, dans le pire des péchés, l'homme ne perd jamais l'image. Il est toujours à l'image de Dieu. Il a perdu la ressemblance, mais jamais l'image. Eh bien, le but de la vie éthique ou morale, c'est de retrouver la ressemblance. Et quand retrouvons-nous la ressemblance, de façon définitive, dans le royaume. Donc, on a, chez saint Thomas, comme chez les pères de l'Église, la même perspective eschatologique. Ce sont des morales métaphysiques ou des morales eschatologiques. Bon. Ce matin, on m'a posé la question, est-ce que vous pouvez, m'a-t-on demandé, citer des questions que saint Thomas d'Aquin a traitées. Alors, il y en a tellement, j'en ai cité quelques-unes au hasard. Je vais essayer de ne pas citer les mêmes. Ah, bah oui, tiens, par exemple, vous avez une question sur les péchés capitaux, par exemple. J'en cite une, alors ça c'est la question 84. L'orgueil est-il le commencement de tout péché? Voilà typiquement une question qui intéresse saint Thomas. Combien y a-t-il de péchés capitaux? Et quels sont-ils? Les effets du péché, la nature corrompue de l'être humain, la peine qu'infligent les péchés. Ici, je vais un peu plus loin, beaucoup plus loin même. Oh là, il y a une énorme question. Quel est le but des observances rituelles? Je remonte en avant. Une question sur la haine. C'est étonnamment moderne, ça, hein, une question sur la haine. Alors, vous avez des questions sur les péchés et des questions sur les vertus. La haine est-elle causée par l'amour? La haine est-elle plus forte que l'amour? Peut-on se haïr soi-même? Peut-on haïr la vérité? La question suivante porte, vous voyez, c'est d'autres exemples, la question suivante porte sur la convoitise. La convoitise est-elle une passion spéciale? Question sur le plaisir après. Le plaisir est-il une passion? Le plaisir qu'est-ce qu'il dit là? Le plaisir diffère-t-il de la joie? Bon, y a-t-il un plaisir qui ne soit pas naturel? L'étonnement est-il cause de plaisir? Joli ça. Etc., etc., etc. Ah, une question sur la tristesse. Les remèdes à la tristesse ou à la douleur? Alors, tout ce que je viens de vous citer là, c'est ce qu'on appelle dans la partie morale le traité des passions. Donc, saint Thomas a beaucoup travaillé les passions. Avec une nouveauté par rapport aux Grecs, c'est que chez les Grecs, les passions sont considérées comme mauvaises. Vous avez, on connaît en français la formule qui dit « Oh, moi je suis stoïcien ». Quand on dit « Moi je suis stoïcien » ou « Moi je suis stoïque », parfois on dit « Je suis stoïcien ». « Je suis stoïque », « Je suis stoïcien », ça veut dire « Je ne me je prends garde, je tiens mes distances par rapport aux passions. Je ne tombe pas, je ne dérive pas vers les passions. Parce que pour les Grecs, les passions sont nocives, sont mauvaises. Pas pour saint Thomas. Pour saint Thomas, les passions sont moralement neutres. Ce qui est un... C'est l'usage qu'on en fait qui peut être mauvais. Alors ça, c'est une avancée, vraiment. Voilà quelques-unes des questions morales de la Somme. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Ce qu'il faut noter, c'est que la morale de saint Thomas donc est une morale du bonheur, je l'ai dit. C'est aussi, c'est fondamental, une morale des vertus. Alors, les vertus, on n'y voit peut-être pas très clair dans ce que sont les vertus. Bientôt, les musées vont rouvrir. Les musées, les grandes salles des mairies, etc., des bâtiments publics. Et vous avez peut-être fait l'expérience en visitant tel ou tel musée que les vertus sont souvent représentées aux quatre coins des grands plafonds de nos musées ou de nos mairies. Hein. Elles sont la vertu de... Donc là, il y a quatre vertus cardinales. Le courage, qu'on appelle aussi la force, la justice, la tempérance et la prudence. Bon, ce sont des vertus grecques que saint Thomas a intégré dans l'édifice de sa morale. C'est pour ça qu'on dit souvent que saint Thomas a baptisé Aristote. Ça, on dit souvent ça, hein, saint Thomas a baptisé la morale gréco-latine. Alors, qu'est-ce qu'une vertu ? Une vertu, c'est un dynamisme durable pour faire le bien. Pour définir ça comme ça, oui, on dit dynamisme, hein, une force durable pour faire le bien. Qu'est-ce que veut dire saint Thomas ? Ben, il veut dire que lorsqu'on commence à être courageux, par exemple, hein, lorsqu'on ose être courageux, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que les vertus ont un mécanisme d'entraînement, un peu comme un athlète, si vous voulez, hein, c'est-à-dire que plus on pratique la vertu, plus on devient vertueux. Plus je m'exerce à être juste envers mon entourage, plus je vais développer cette capacité à être juste envers plus de monde, dans plus de situations, etc. Hein? Donc, on n'est pas... Vous voyez, là, quand on dit dans une morale des vertus avec saint Thomas, on n'est pas du tout dans un univers, d'abord, du permis ou du défendu. J'ai le droit, je n'ai pas le droit. C'est péché ou ce n'est pas péché. Ce n'est pas du tout ça, d'abord, pour saint Thomas. Le plus important pour saint Thomas, c'est de développer sa capacité, son dynamisme vertueux. C'est-à-dire... Bien entendu, les quatre vertus cardinales, la force, la justice, la tempérance et la prudence, et bien entendu, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Bon, ça va, vous connaissez la différence entre les deux. Hein. Pour mémoire, je vous rappelle que les vertus cardinales sont praticables par tout le monde, en théorie. Par tout le monde, c'est-à-dire elles sont données à tout homme. Croyant ou pas, n'importe qui en principe peut être juste. Bon, alors que les vertus théologales sont des vertus qui sont, comme l'adjectif l'indique, données par Dieu, et même données par le Dieu de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce sont les trois vertus typiques de la foi chrétienne: croire, espérer et aimer. Pour croire, espérer et aimer, il faut une révélation, un don spécial du Dieu de Jésus-Christ. Bon. Et ces sept vertus, donc les trois théologales et les quatre cardinales, fonctionnent, si vous voulez, un peu comme une musculature spirituelle. Hein. Nous sommes un peu appelés, pour prendre cette comparaison, à devenir des athlètes de la vie morale Et plus on s'y exerce, plus on le devient. C'est un choix moral important, hein. Il y a beaucoup d'autres systèmes que le système vertueux, hein. Mais on a souvent l'habitude, quand on parle de la morale chrétienne, et en particulier de la morale catholique, à se dire, bon, la morale, c'est pas drôle, et puis c'est surtout pour définir les normes morales auxquelles il faut obéir, et si on n'obéit pas, eh bien, on est dans le péché, ou dans la faute, ou dans le meilleur des cas, on se trompe et on est dans l'erreur, quoi, hein. Mais ce n'est pas d'abord ça pour saint Thomas. La morale thomiste, c'est une morale des vertus, c'est-à-dire une morale de l'exercice éthique. Plus vous vous exercez, plus vous êtes vertueux, plus vous êtes un bon chrétien. Et plus tôt on commence, mieux ça vaut. Dans ces quatre vertus cardinales, il y en a une que saint Thomas distingue de manière privilégiée, on peut dire, et qui est la vertu cardinale la plus valorisée par saint Thomas, c'est la prudence. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? C'est un homme prudent. Alors, par pitié, ne confondez pas la prudence et la précaution, hein, parce qu'on a l'habitude maintenant, à cause du célébrissime principe de précaution qui a gouverné à peu près toute l'épidémie, hein, qui est inscrit dans la Constitution, on a un peu l'habitude de confondre la précaution avec la prudence. La précaution, c'est je ne prends pas de risque. Parce que je ne prends pas de risque, je n'essaye même pas. Je suis, comme on dit en mauvais français d'ailleurs, je suis précautionneux, c'est-à-dire j'évite de faire quelque chose par peur ou parce que je ne le sens pas, parce que etc. Enfin, je me contrôle, je ne fais rien. Principe de précaution, j'évite d'agir. Et on dit que c'est éthique, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, la précaution c'est un principe éthique, en principe, bon, cas de le dire. La prudence, ce n'est pas ça. La prudence, c'est une vertu, là encore, hein, c'est les Grecs qui ont tout inventé en l'occurrence, hein. La prudence, c'est d'abord une vertu grecque qui a un mot qui n'est pas... Un mot qui n'est pas traduisible, les Grecs, alors vous pouvez l'écrire en le translittérant du grec, les Grecs appellent ça la phronesis. P-H-R-O, on met très bien un accent circonflexe, mais enfin, P-H-R-O-N-E accent, S-I-S, phronesis. C'est le mot grec. Pour le traduire en français, on est quelque part entre la sagesse et la prudence. Et quand on veut, on pourrait même dire, la phronesis des Grecs, c'est une sagesse prudentielle. Donc le but de la vie morale, mais le moyen de la vie morale que saint Thomas valorise le plus, c'est le comportement prudent, c'est-à-dire se décider à partir d'une sagesse prudentielle. Plus vous exercez à la sagesse prudentielle, plus vous la pratiquez pour vous ou pour les autres. Donc parmi les quatre vertus cardinales, c'est la prudence qui est, on pourrait dire, le bijou de la théologie morale de saint Thomas sur les vertus. La prudence. Donc pas la précaution, ça c'est Jacques Chirac, et puis après, hein, mais saint Thomas d'Aquin, c'est la prudence. Alors, une morale du bonheur, une morale des vertus. Excusez-moi, je regarde les messages qui arrivent, on ne peut pas me fiche la paix même à cette heure-ci. Voilà. Mais une morale du bonheur, une morale des vertus, ce qu'on peut appeler également une morale de l'acte humain. L'acte humain, Saint Thomas dit que pour qu'un acte soit humain, eh bien, il faut qu'il soit suffisamment libre, volontaire, c'est-à-dire en usant notre volonté et en usant de notre raison. Liberté, volonté, rationalité, ce sont les caractéristiques d'un acte humain. Et saint Thomas distingue l'acte humain de l'acte, alors vous allez me dire c'est une argutie, mais pas du tout, l'acte humain de l'acte de l'homme. Alors je vais m'expliquer. Acte humain, tous les actes humains sont des actes de l'homme, mais tous les actes de l'homme ne sont pas des actes humains. Je vois que quelqu'un pressent ce que je veux dire, c'est-à-dire un acte humain, c'est un acte moral qui engage notre liberté, notre volonté, notre rationalité. Un acte de l'homme, ça n'est pas un acte moral. C'est un homme, une femme qui le pose, mais l'humain n'en est pas responsable. Bon, j'ai donné l'exemple qui a enflammé le débat cet après-midi du meurtre de Madame Halimi. Hein. Les juges ont reconnu, sur la base du rapport de la plupart des experts psychiatres, pas tous, mais sur la base du rapport de la plupart des experts, que ce n'était pas un acte humain parce que le meurtrier était sous l'emprise du cannabis et donc avait fait une bouffée délirante. En faisant une bouffée délirante, l'acte qu'il a effectivement posé, il n'en était pas responsable. Hein, notre droit, pour l'instant, fonctionne comme ça, on pourrait le réformer. Peut-être d'ailleurs vaudrait-il le réformer, mais pour l'instant, hein, à partir du moment où les experts vous reconnaissent comme irresponsable dans une situation, dans un acte que vous posez, saint Thomas dirait « oui, c'est un acte de l'homme, c'est pas un acte humain ». C'est-à-dire que la liberté, la volonté, la raison de la personne qui pose cet acte sont annulées ou amoindries. Pour qu'il y ait un acte humain, c'est-à-dire un acte moral, un véritable acte moral, il faut que notre volonté, notre liberté, notre rationalité soient engagées. Autrement dit, on ne pourrait pas dire comme ça aussi, un acte de l'homme, c'est un acte pré-moral ou si vous voulez post-moral, en tout cas, ce n'est pas un acte moral. On agit presque comme des animaux, si vous voulez. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis un peu surpris de la surprise des gens parce qu'une des premières choses qu'on apprend en psychiatrie, c'est que lorsqu'une personne, on le sait pour les jeunes en particulier, mais prend du cannabis, il y a, je crois, il y a un bon pourcentage de chances que la prise de cannabis déclenche une bouffée délirante. C'est vraiment un truc assez courant, très connu. Et il y a une chance aussi assez substantielle, hélas, que la première bouffée délirante vous fasse entrer en schizophrénie. C'est-à-dire, c'est le grand problème du cannabis. Je parle du cannabis récréatif, hein, je ne parle pas du cannabis thérapeutique, mais le cannabis soi-disant récréatif est extrêmement dangereux parce que, premièrement, il peut provoquer une bouffée délirante. Deuxièmement, la bouffée délirante peut être suivie d'une entrée en schizophrénie. On le sait très bien puisque les urgences des hôpitaux psychiatriques le samedi soir sont pleines des jeunes qui ont pris du cannabis, garde d'Austerlitz ou Montparnasse, qui commencent à entrer en délire, et on espère pour eux que ce ne soit qu'un délire temporaire et qu'il n'y ait pas d'entrée en schizophrénie. Mais comme l'entrée en schizophrénie se fait autour de 20 ans, on est très attentif à voir si la première bouffée délirante est suivie d'autre chose. Mais donc, c'est un truc hyper connu. Je suis très étonné de voir que, ben, du coup, sur l'affaire de Halimi, on n'a pas... parce que, du coup, les experts psychiatres ont rendu des avis, sauf un, je crois, des avis de, si vous voulez, de déresponsabilisation. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de voir des bouffées délirantes sous l'empire du cannabis, et donc le meurtrier de Sarah Halimi n'était pas, ont-ils dit, responsable. Ça a énormément choqué, parce que du coup, la qualification d'acte antisémite semblait en prendre un coup, si vous voulez, et ça a fait dire à certains juristes qu'il faudrait changer la loi. Parce que pour l'instant, la loi, elle est comme ça, hein, c'est ça le problème. Changer la loi, peut-être en amont de la loi, en disant, quand vous prenez le risque, vous êtes encore tout à fait responsable de vos actes, de prendre du cannabis, vous risquez, à ce moment-là, de faire une bouffée délirante. Et à ce moment-là, on peut peut-être réformer la loi à cet endroit-là, peut-être, parce que pour le quelqu'un qui est déjà engagé dans une consommation addictive, même le moment où il reprend du cannabis, est-ce qu'on peut considérer qu'il est vraiment responsable au moment où il reprend du cannabis? Je n'en sais rien. Mais j'ai donné cet exemple pour vous dire que le droit français a très bien hérité de saint Thomas d'Aquin, hein, c'est-à-dire que les actes humains relèvent du juge, quand on est chrétien d'ailleurs, ils relèvent du confesseur aussi, hein, s'ils sont des actes mauvais. Les actes de l'homme, ce n'est pas notre responsabilité. Si vous voulez, les actes de l'homme, aujourd'hui, on dirait, ce sont les actes conditionnés, ce sont les actes issus des déterminismes de la personne humaine sur lesquels nous n'avons pas de prise. Alors, quelqu'un disait cet après-midi, il y a peut-être en réalité, si on est pessimiste, peut-être que l'être humain pose des actes de l'homme très souvent et très rarement des actes vraiment humains. Bon, mais ça, je ne sais pas si vous avez un regard optimiste ou pessimiste sur la condition humaine. Moi, je ne dirais pas ce que je pense, mais en tout cas pour saint Thomas, hein, et voyez que ça a eu une postérité, une filiation importante, tous les actes que nous posons comme êtres humains ne peuvent pas être qualifiés d'humains, parce que nous manquons souvent aux critères de ce qui est vraiment une décision, un choix, un acte humain. Il y a des questions? Oui, je ne sais pas si le micro... Voilà, très bien.
Je voulais savoir s'il pouvait y avoir des actes humains néfastes, enfin très mauvais, parce qu'on peut appliquer sa liberté, sa volonté, sa raison pour faire le mal.
Ah ben, l'acte peut être bon ou mauvais.
Hein.
Oui, d'accord. Donc, on peut, oui, acte humain... Alors, c'est une très bonne question quand même, parce que saint Thomas a une vision qui est en définitive assez optimiste. Il dit que, c'est discutable, moi je trouve, hein, il dit que l'homme ne peut pas choisir le mal en tant que mal. C'est-à-dire, on pose un acte mauvais parce qu'on se trompe. Mmh. Parce qu'on se laisse abuser, parce qu'on a mal jugé d'une situation, parce qu'on veut sauver sa peau, parce qu'on est égoïste, etc. Mais on se trompe. En fait, par exemple, quand vous posez un acte qui est marqué par l'égoïsme, hein, vous ne choisissez pas délibérément, dit saint Thomas, le mal que représente l'égoïsme. En réalité, vous cherchez à vous préserver, vous. Donc, saint Thomas voit toujours derrière le mal posé un bien. Mais voyez, c'est comme une erreur d'aiguillage pour saint Thomas. Oui. Chez saint Thomas, on ne choisit jamais le mal pour le mal. On choisit le mal, entre guillemets, parce qu'on se trompe. Parce qu'on est ignorant, ou parce que l'on est mal informé, ou parce qu'on veut sauver sa peau soi-même et qu'on prend une mauvaise décision. Mais effectivement, on peut, même si le bien se cache derrière le mal, malheureusement, nous sommes tout à fait en capacité, même si saint Thomas est optimiste, de poser des actes mauvais. C'est la raison pour laquelle les péchés existent. Hein. Et saint Thomas, d'ailleurs, fait l'équivalence, puisqu'il l'écrit comme ça, il dit « l'acte humain, c'est l'acte moral, et l'acte moral, c'est l'acte vertueux. » Les trois sont équivalents, humain, moral, vertueux. Vous voyez, dans une forme d'exercice continuel, de dynamisme du bien, Et on pourrait dire, on va faire la pause, mais on pourrait dire la chose suivante, c'est que les actes humains que nous posons sont comme les pas que nous faisons sur le chemin qui nous mène au royaume. Vous voyez, hein, nous sommes en itinéraire, en itinérance vers le royaume. Hein, je vous ai dit, c'est une morale métaphysique, c'est une morale eschatologique. Eh bien, les actes humains, ce sont les pas que nous posons sur ce chemin qui nous mène au royaume. Donc, à chaque fois que nous posons un acte humain, nous nous rapprochons du royaume. Donc, à chaque fois que nous avons un comportement moral, bon, vous pouvez dire éthique, en l'occurrence, ça veut dire strictement la même chose, à chaque fois que vous avez un comportement éthique, vous vous rapprochez du royaume, vous anticipez le royaume. Je dis ça parce que, vous voyez, la morale de Thomas, c'est une morale du bonheur. On ne fait pas un acte humain, comment dirais-je, si j'ose dire, pour le plaisir de faire un acte humain. On fait un acte humain parce qu'il anticipe le royaume qui vient. Mais c'était la même idée chez les pères, c'est-à-dire à chaque fois que nous choisissons le bien, nous nous rapprochons de la ressemblance de Dieu que nous avons perdue. Il y a d'autres questions? Ça va? Bon, et il est quasiment 9h, je vous propose 10 minutes de pause. Hein. Et donc, à tout à l'heure, c'est l'heure des tisanes, on commence à entrer dans une nuit reposante, donc choisissez bien les infusions, les saveurs variées et subtiles, mais pas trop fort, parce qu'il faut encore tenir jusqu'à 10h. Hein. Quelque chose de doux, mais de pas trop, qui cogne pas trop. À tout à l'heure. Hein.
À tout à l'heure.
Coupez vos micros, hein, n'hésitez pas, voilà, hop. Ah bon, alors. Oui, est-ce que c'est la thrombose et dû au vaccin? On n'en sait rien. Non. Elle souffle. Oui. porter un masque est parfaitement inutile. Oui. Bon, coucou. Bon. Pas d'autres questions? Non. Pourtant, il y en aurait, hein, sur le principe de précaution, par exemple. Alors, il y a aussi, hein, dans la somme de théologie, je n'ai pas dit ça ce matin ou cet après-midi, mais je peux vous le dire, il y a un très joli petit texte dans la somme de théologie, qui est tout petit, et c'est rigolo parce qu'il est... Il est tout petit et pourtant il compte énormément. Saint Thomas, dans la somme de théologie, écrit un petit texte sur ce qu'il appelle la loi nouvelle. Et alors qu'il développe de très longues considérations sur les vertus, les péchés, les passions. Il y a un tout petit texte sur la loi nouvelle qui arrive presque en fin de parcours. Donc, il a parlé de la loi, l'Ancien Testament, les péchés, les vertus, et il termine sur la loi nouvelle. Qu'est-ce que la loi nouvelle pour saint Thomas? La loi nouvelle, c'est un synonyme, l'évangile. La loi nouvelle, nous vivons maintenant sous le régime de la loi nouvelle, c'est-à-dire qu'après la résurrection de Jésus-Christ, la seule loi à laquelle nous devons obéir, c'est la loi nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. C'est très important, c'est très, 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 très fondamental, puisque cela transfigure, on pourrait dire, l'ensemble de la morale de Thomas d'Aquin, la loi à laquelle nous obéissons maintenant, alors que nous sommes chrétiens, la première loi et la dernière loi à laquelle nous avons à obéir, l'alpha et l'oméga, c'est ce qu'il appelle la loi nouvelle, c'est l'évangile. Donc toute la loi, tout l'édifice moral chrétien dépend, est soumis à la pratique de l'Évangile. On m'a aussi demandé cet après-midi si on devait, si on utilisait encore aujourd'hui la morale de saint Thomas. La réponse est oui. Je vous ai dit que toutes les encycliques citaient tous les textes du magistère citent saint Thomas, même si c'est des citations qui sont parfois un peu artificielles. Mais en réalité, même si c'est un document du XIIIe siècle, il continue à fonctionner comme la source, une des sources principales de la théologie morale catholique. Alors, je dirais sur saint Thomas, même si ce n'est pas la même chose, ce que j'ai dit, ce n'est pas le même statut, ce que je vous ai dit sur la Bible, c'est-à-dire que saint Thomas doit être aussi l'objet d'une interprétation. C'est-à-dire qu'il soit capable pour nous aujourd'hui, chrétiens, théologiens du XXIe siècle, de recevoir et d'interpréter saint Thomas pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a probablement des réflexions morales de Thomas qui sont de son temps et qui sont caduques. Ce serait étonnant d'ailleurs, le contraire serait étonnant. En revanche, il y a une architecture d'ensemble qui est toujours d'actualité. C'est-à-dire la morale des vertus, contrairement à ce qu'on peut penser, est une morale tout à fait d'actualité. Les vertus qu'on avait beaucoup oubliées dans les années 60-70, dans la philosophie morale, par exemple, la thématique des vertus a fait un retour impressionnant, par exemple aux États-Unis, au début des années, aux alentours des années 2000, avec un philosophe, peu importe le nom, mais enfin bon, qui s'appelle Alasdair MacIntyre, et de sorte que les vertus que l'on croyait totalement obsolètes retrouvent une espèce de nouvelle vigueur. Où l'on voit qu'un texte aussi ancien que saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, continue à avoir une puissance d'inspiration, pas seulement dans la théologie morale catholique, mais au-delà. Alors moi, je suis étonné de voir à quel point, même en Sorbonne, dans la très, très laïque faculté de Sorbonne, on s'est mis à retravailler les mystiques, bien sûr, ce qui est déjà un peu étonnant, mais même saint Thomas. Alors, ça fait un peu insolite, parce qu'il y a longtemps que les Sorbonnards ne le travaillaient plus, mais ça existe. Et pour ce qui est de la morale catholique, oui, elle est encore largement fondée sur saint Thomas. Alors, peut-être la partie qui, à mes yeux, mais là, c'est un avis plus personnel, à mes yeux, a le plus vieilli, c'est la partie concernant la morale sexuelle et familiale. Parce qu'alors là... pour des mentalités contemporaines, mais je prétends pas que nous devions courir après la contemporanéité, mais pour des mentalités contemporaines, c'est évidemment une morale qui est extrêmement datée. La morale sexuelle de saint Thomas, elle est dépendante, par exemple, de la biologie, des connaissances biologiques du XIIIe siècle. Donc, c'est un peu difficile de la reprendre telle qu'elle sans l'interpréter. La morale sexuelle de saint Thomas, si vous voulez, c'est une morale naturelle qui fait que, par exemple, il n'y a pas vraiment de différence, si je suis un petit peu strict, entre la morale sexuelle de la personne humaine et la morale sexuelle des animaux. Il s'agit avant tout de procréer, de transmettre la vie, et ne vous attendez pas à trouver dans la morale de saint Thomas, surtout pas du Jean-Paul II. C'est-à-dire que l'idée que la morale soit relationnelle, que dans la donation mutuelle, etc., enfin, des thèmes auxquels nous sommes habitués depuis Jean-Paul II, c'est à peu près étranger à saint Thomas d'Aquin. La morale, pour saint Thomas d'Aquin, la morale familiale, c'est la reproduction de l'espèce, avant tout ça. C'est donner la vie au sens de la vie biologique. Dans la morale sexuelle de Thomas, il y a guère plus de considération que cela. Donc, voilà, je crois que c'est un texte du XIIIe qui est extrêmement précieux encore aujourd'hui, moi je dirais, sur la morale générale, sur l'architecture d'ensemble de la vie morale. Après, sur des morales sectorielles, il y aurait certainement des choses à actualiser, hein, c'est évident. Cela dit, les grands textes du magistère s'en inspirent encore largement. Hein. Toute la bioéthique catholique autour des questions de début ou de fin de vie s'inspire de saint Thomas. En ligne directe, saint Thomas d'Aquin, Augustin avant, mais saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça que c'est difficile, vous voyez, purement et simplement de l'évacuer. Il faut bien aller voir, bien le lire de temps en temps, voir ce qu'il a dit, comprendre, essayer de comprendre ce qu'il a dit et voir ce qu'on peut en retenir aujourd'hui. Ce qui est tout à fait troublant, hein, je vous l'ai dit en commençant, c'est que la morale de Thomas a représenté le point d'équilibre le plus subtil, le plus affiné depuis les pères de l'Église. Hein, donc le XIIIe siècle, saint Thomas représente vraiment la synthèse la plus équilibrée possible. Ce fait-là disparaît après saint Thomas, c'est-à-dire que l'équilibre de la théologie morale trouvé par saint Thomas est complètement cassé, hein, il y a une très grande cassure après saint Thomas, c'est-à-dire même dans les premières dizaines d'années après la mort de saint Thomas, c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle. Et ceux qui ont le plus rompu avec saint Thomas, eh bien, ce sont ses plus fidèles disciples. C'est toujours comme ça dans les grands fondateurs, les grands penseurs qui ont fondé des écoles, etc. On n'est jamais trahi que par les siens. Et en général, le fondateur se retrouve trahi tout ou partie par les premiers disciples qui prétendent être ses disciples les plus fidèles. Hein. Et donc, saint Thomas a été, l'équilibre d'ensemble de la théologie morale a été rompu quelques dizaines d'années après la mort de saint Thomas par ceux qu'on appelle les thomistes. Les thomistes, c'est-à-dire les membres, si vous voulez, de l'école de saint Thomas. Alors, les thomistes, c'est un peu comme la mauvaise herbe, si j'ose dire, c'est un peu dur là, mais ça pousse, ça a énormément poussé, c'est-à-dire que les thomistes, il y en a jusqu'au, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, hein. Mais la théologie thomiste a régné jusqu'à Vatican II. Hein, depuis Vatican II, on essaie de faire un petit peu autre chose, mais vous avez toujours des écoles de théologie thomiste hein, aujourd'hui. Alors, je vous donne une petite distinction de vocabulaire, mais qui est quand même assez. Oh, c'est une petite distinction, mais c'est quand même pas inutile de le savoir. On distingue les théologiens que l'on dit thomasiens et les théologiens que l'on dit thomistes. Donc, moi, je serais par exemple plutôt, je serais thomasien. Hein, un thomasien, c'est quelqu'un qui lit le texte de saint Thomas dans son contexte. Mais les théologiens thomistes, ce sont les théologiens qui essayent sont les commentateurs successifs de saint Thomas. Or, on voit très bien que plus saint Thomas a été commenté, plus on s'est éloigné de lui en réalité. Et alors, on s'est éloigné de lui sur un point, le point le plus évident, et c'est le point qui explique la catastrophe après saint Thomas. C'est que les commentateurs de saint Thomas d'Aquin ont rompu avec la morale du bonheur. Je vous l'ai dit, pour saint Thomas, on ne peut pas séparer la morale de la question du bonheur. Et on ne peut pas séparer la morale de la question du sens ultime de la vie. Pourquoi j'essaie d'avoir une vie morale en bonne et due forme, une vie juste, une vie tempérante, une vie prudente, c'est parce que j'aspire au royaume qui vient. Donc je n'ai pas, pour saint Thomas, c'était absolument, si j'ose dire, naturel, enfin, bon, c'était absolument logique de penser la vie morale en fonction de la fin ultime. Hein. Mais malheureusement, plus ça va, plus après la mort de saint Thomas, les théologiens moralistes font de la morale, j'allais dire, close. On fait de la morale pour elle-même et on la coupe de la question du bonheur. Donc de la question du sens de la vie. Hein, je vous ai dit que la théologie morale de saint Thomas était dans la somme précédée par la question de la béatitude. Eh bien, c'est précisément la question de la béatitude qui est évacuée par les premiers commentateurs de saint Thomas, c'est-à-dire que les moralistes ne font plus que de la morale. Et aujourd'hui, si on considère la morale de façon comme ça, qu'est-ce qu'on a dans la tête spontanément si on interrogeait les gens sur c'est quoi la morale, ils vous diraient bah, c'est le permis et le défendu, c'est ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. C'est, bon, eh bien ça, c'était pas saint Thomas, mais ça, c'est dû aux commentateurs de saint Thomas. La question morale est coupée de la question de la béatitude. C'est fini. Alors, je peux vous donner des noms. Bon, il y a quelques noms très connus de théologiens postérieurs à saint Thomas, donc les grands théologiens thomistes hein, qui ont commenté saint Thomas. Alors là, autant saint Thomas est compliqué, autant les commentateurs sont encore plus compliqués. Hein. C'est essentiellement Cajetan, C-A-J-E-T-A-N, Cajetan, Jean de saint Thomas. Un troisième connu également, c'est Suarez, S-U-A-R-E-Z. Bon, tout ça, c'est pas vraiment des Français. Il y a un théologien thomiste français très connu qui s'appelle Billuard. Et Billuard, qui a été cardinal, B-I-2-L-U-A-R-T, Billuard est un théologien du XVIIIe siècle. Vous voyez, le thomisme a fourni hein, une arborescence absolument étonnante hein, jusqu'à des dates très récentes. Mais la caractéristique de ces grands commentateurs thomistes, c'est que la question du bonheur ne les intéresse plus. C'est quand même gênant. Hein. La question de. Et ce sont des courants de pensée de plus en plus spéculatifs, de plus en plus abstraits, et, autre caractéristique, de plus en plus juridiques. Une espèce de judiciarisation de la morale et une intellectualisation de la morale que saint Thomas n'avait pas connue. C'est ce qu'on va appeler d'ailleurs, c'est ce qui va donner naissance à un courant qui existe encore aujourd'hui, pas seulement en théologie mais aussi en philosophie, qu'on appelle la casuistique, c'est-à-dire l'étude des cas. La théologie morale va s'abattardir, va s'avachir, si vous voulez mon point de vue, dans ce qu'on appelle la casuistique, donc l'étude des cas. Qu'est-ce que fait un théologien moraliste? Il étudie des cas. Des cas, c'est-à-dire, par exemple, dans les comités d'éthique à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On étudie des cas de patients. C'est une morale, après saint Thomas, qui va, autre caractéristique, qui va se centrer de plus en plus sur la question de la loi. Parce que à partir du moment où vous séparez la morale de la béatitude, hein, du bonheur, la seule chose qui va vous intéresser en morale, c'est la loi. Je ne peux pas faire. J'ai le droit, je n'ai pas le droit. À quelles conditions je peux le faire? À quelles conditions je... Non, il ne faut surtout pas que je le fasse. Est-ce que je ne peux pas le faire tout le temps ou est-ce qu'il y a des situations où je pourrais le faire? etc. etc., etc. Donc il y a une espèce de focus de la théologie morale. La théologie morale est réduite à la question de l'étude des cas, de l'étude de la loi, de la transgression de la loi, donc à la question de l'acte. La seule chose qui va intéresser les moralistes, après saint Thomas, c'est l'acte. Est-ce que l'acte que je pose est bon ou mauvais ? Voilà. Ce n'était pas du tout la perspective de Thomas, puisque comme je vous l'ai dit, la perspective de Thomas, c'était de s'entraîner à avoir une vie éthique, de développer en soi la capacité vertueuse, et puis si on faisait ça, j'allais dire, les actes humains venaient spontanément. Quand vous commencez à essayer d'être juste et que vous améliorez, vous vous bonifiez là-dedans, vous finissez bien par avoir l'habitude de poser des actes humains, des actes vertueux. Et puis, j'allais dire, la question de la loi, elle n'est pas secondaire là-dedans, mais elle est seconde quand même. Elle n'est pas secondaire, mais elle est seconde. En revanche, après saint Thomas, et de plus en plus après saint Thomas, il y a une espèce d'inversion des priorités. La béatitude, on s'en fiche. Et ce qui va intéresser, c'est la loi, c'est les actes. Ce qui va donner la répartition suivante. Après saint Thomas, dans les grandes facultés, y compris la Sorbonne, je vous l'ai dit, la Sorbonne, il faut imaginer, c'était une université avec des clercs qui enseignaient, en général les ordres mendiants, et donc on enseignait la théologie à l'université. C'était le sommet de l'intellectualité médiévale, l'enseignement de la théologie en Sorbonne, donc on n'était pas du tout dans un univers laïque. Du coup, la théologie est répartie en deux grandes classes, ceux que l'on va appeler les maiores, maiores, c'est-à-dire, vous l'écrivez, c'est du latin, bon, M-A-J-O-R-E-S, maior, les plus grands maiores, et puis ceux qu'on va appeler les minores, les petits. M-I-N-O-R-E-S, maiores, minores. Alors, ça veut dire quoi ? Les théologiens majeurs, c'est ceux qui étudiaient la métaphysique. C'est ceux qui étudiaient les questions de trinité, les questions les plus spéculatives, les plus difficiles, les plus... Voilà. Et les minores, c'est ceux qui font de la morale. Le théologien moraliste est complètement déclassé. Parce qu'il s'occupe des cas. Il s'occupe de la vie quotidienne, des cas, de la loi, et ça n'intéresse pas les théologiens métaphysiciens, les maiores. Vous voyez que cette distinction qu'on retrouve entre les maiores et les minores, c'est une distinction qui n'a aucun sens pour saint Thomas. Puisque précisément pour saint Thomas, on fait de la morale, pas pour être. Pour faire de la morale, on fait de la morale pour se soucier de la vie à venir. Et bien c'est fini après saint Thomas. Peu à peu, ça se dégrade et ça s'avachit, et on devient nous faisons de la théologie morale, donc nous nous sommes les minores, on ne s'intéresse qu'au cambouis dans lequel on met les mains, si vous voulez, on s'intéresse aux actes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on va étudier les cas, on va rendre des décisions. C'est pas la grande théologie. La grande théologie, elle s'occupe des questions trinitaires, et la morale, elle est réservée aux prêtres et en particulier aux confesseurs, parce qu'évidemment ceux qui vont s'occuper de la vie morale, eh bien ce sont les prêtres qui confessent quoi? Les péchés, c'est-à-dire les infractions, les transgressions à la loi morale. Oui, il y a une question, Vanessa.
Quand vous dites que saint Thomas il aurait pris par Vatican II, etc. C'est saint Thomas ou c'est les thomistes?
C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée, comme disait Georges Marchais. C'est-à-dire que le thomisme qui est encore en cours juste avant Vatican II, donc pendant les années, pendant la première moitié du XXe siècle, c'est un thomisme complètement abruti. Complètement abruti, c'est-à-dire c'est un thomisme qui s'intéresse avant tout au péché et plus du tout aux vertus. Hein, c'est le paradoxe, ça. C'est-à-dire, moi, je me souviens de... Quand j'ai fait ma thèse, j'interrogeais des prêtres qui, pour la plupart du temps, maintenant, sont la plupart d'entre eux morts, et qui ont eu leur formation en théologie avant le Concile. Et ils décrivent la chose, ils décrivent leur cours en disant « Le cours de morale qu'on a eu, c'était un cours sur les péchés. Ce n'était pas un cours sur les vertus. On nous parlait sans cesse des péchés, parce qu'on nous préparait au ministère de la confession, on ne nous parlait quasiment pas des vertus. C'est quand même un comble, non? Alors que la somme de théologie, c'est une morale des vertus. Eh bien, ils ont réussi à faire d'une morale des vertus une morale des péchés. Et c'est cette morale-là, c'est ce thomisme-là, complètement dégradé, qui arrive juste péniblement jusqu'à Vatican II. C'est la raison pour laquelle Vatican II, pas seulement en morale, mais a souhaité une réforme, enfin une rénovation de la théologie morale. Mais c'est effrayant de voir le thomisme qui était en cours dans la première moitié du XXe, ou même le premier quart du XXe, c'était un thomisme qui n'avait plus rien à voir avec Thomas d'Aquin. Quand vous preniez un théologie, il y a plein de, j'avais travaillé pour ma thèse, des traités de théologie morale ou des cours de théologie morale de la première moitié du XXe siècle, mais c'est effrayant, c'était des traités, c'est des catalogues de péchés. Hein? Plus rien sur les vertus. Voilà. La morale du bonheur est devenue une morale des péchés. Voilà. Et la grande césure qui n'a fait que s'accroître, si vous voulez, c'est dès les dizaines d'années, les premières dizaines d'années après la mort de saint Thomas. Et ce qui a, hélas, permis cette césure, je vous ai dit, c'est l'exfiltration de la question de l'amour, on pourrait dire, du salut, de la grâce, l'exfiltration du traité de théologie morale. Alors du coup, il reste quoi? Il reste les péchés. Et les vertus, on s'en fiche. Les vertus sont une espèce d'annexe. Oui.
Et pourquoi c'est passé comme ça? Pourquoi il y a cette cassure?
Eh bien, ça s'est passé comme ça parce que, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, les théologiens ont cédé à leur péché mignon, si vous voulez, c'est-à-dire la spéculation. La spéculation vécue, opérée pour elle-même, avec un versant plus juridique ou avec un versant très intellectualiste, et en réalité, ils se sont détachés du terrain. Le terrain concret, la pratique, ne les intéressait plus. La seule chose qui les intéressait, c'était le raisonnement. Finalement, si je suis un petit peu sévère, les théologiens moralistes sont devenus des raisonneurs, et ils ont raisonné sur les études de cas, au détriment de l'architecture d'ensemble que saint Thomas avait mise au point. Donc, vous voyez, c'est pas la théologie. On dit beaucoup, par exemple, que au XIXe siècle, les maîtres du soupçon, Nietzsche, Marx et Freud, ont fait beaucoup de tort, etc. Mais la théologie chrétienne, en particulier la théologie catholique, s'est fait suffisamment de tort à elle-même. Alors bien entendu, Marx et compagnie n'ont rien arrangé, mais l'état de la théologie morale avant Vatican II était une catastrophe.
Mais
ça n'intéressait personne, ou ça n'intéressait que les confesseurs, parce qu'il fallait absoudre les péchés. Donc il fallait donner une liste de péchés, et peut-être que vos parents, vos grands-parents vous ont donné des échos de la manière dont était pratiqué, par exemple, le sacrement de réconciliation, qui était une véritable catastrophe avec des listes de péchés, avec même une dimension intrusive dans la conscience des gens. C'est pas du tout la morale de saint Thomas. Saint Thomas ne considérait, si vous voulez, les péchés que par rapport aux vertus. Mais le péché n'a de sens que parce qu'il échoue là où la vertu réussit, si vous voulez. Voilà la grande théologie. Eh bien, ils ont réussi, mesdames et messieurs, à inverser les deux, c'est-à-dire le traité de théologie morale de base commençait par les péchés, les trois quarts du traité c'était les péchés, et les morales, les vertus, tout à la fin, en annexe, tout le monde s'en fichait. C'est On pourrait, si j'étais hyper caricatural, si je voulais faire jouer un petit peu mon Alain Decaux, etc., c'est la grande trahison des théologiens, si vous voulez. C'est que, alors, voilà, la grande trahison des clercs, on pourrait dire, voilà, c'est d'avoir saboté la morale de saint Thomas.
C'est ça qui semble assez étonnant, parce que après tout ce que vous nous avez montré, je ne connaissais pas du tout, ou je ne connais pas saint Thomas d'Aquin ni ce qu'il a écrit, mais il semble que ce qu'il a écrit, c'est assez fondateur et repris jusqu'à l'heure actuelle, et que du coup, il y a une grande différence entre ce qu'il a écrit et ce qu'il a été repris derrière. Et je comprends bien ce que vous dites par rapport à la casuistique et ce qui s'est fait, mais en fait, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces hommes qui ont repris ces textes. C'est ça qui est difficile à comprendre. Est-ce qu'il y a un événement historique? Est-ce qu'il y avait de la haine contre saint Thomas d'Aquin parce
qu'il était tellement... Non, il y avait une très grande vénération pour saint Thomas d'Aquin, hein, mais simplement, si vous voulez, la théologie a versé dans son pire versant, qui est la spéculation pour elle-même.
Ouais.
Okay. C'est-à-dire que le traité de la loi nouvelle, qui en fait ce que saint Thomas appelle l'évangile, n'intéressait plus les théologiens. L'évangile n'intéressait plus les théologiens. Les théologiens sont devenus des spéculateurs, des raisonneurs, et en particulier la morale, parce que vous connaissez, la morale se prête particulièrement à ça. Quand vous dissertez sur la théologie trinitaire, bon, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de risques, hein. Quand vous dissertez sur les sacrements, c'est pas non plus très risqué, mais la morale se prête très bien à un système clos, hein, dans lequel on ne traite que des cas pratiques, hein, ou des cas théoriques. Je reviendrai dans le prochain cours, je vais développer ce point-là parce qu'il est très intéressant, les études de cas. Voilà, la césure a été faite. Je vous dis, je pense que pour répondre à votre question, oui, c'est ça, c'est le péché mignon des théologiens, c'est la spéculation close sur elle-même. Hein. Et puis, mais je reviendrai le cours suivant sur les caractéristiques de cette théologie qui s'est éloignée de saint Thomas. Oui.
Est-ce que Vatican II a réussi à rétablir ou est-ce qu'on a toujours du mal malgré Vatican II?
Vatican II a, alors comme je vous l'ai dit, hein, à mon avis, Vatican II, c'est pas un grand succès pour la morale malgré tout, hein. Contrairement à la Bible, à la liturgie, qui ont été fortement renouvelées grâce à Vatican II. Je vous ai dit, je crois que Paul VI avait arrêté le concile sur les questions de morale parce que ça chauffait trop. Et donc, en fait, ce sont les théologiens moralistes après Vatican II qui ont fait le boulot. Hein. Et comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait en s'intéressant d'abord aux conduites humaines, à l'agir concret, à l'agir historique des gens, tout simplement, hein, des personnes. Donc et ils l'ont fait en usant des nouvelles sciences historiques, humaines, sociales qui fleurissaient à l'époque. Mais ne soyons pas naïfs, on voit très bien d'ailleurs, si vous avez un petit peu l'habitude de ça, on voit très bien comme deux courants se dégager, une théologie morale qui est proche de, on va dire, du Vatican, hein, et une théologie morale qui est... qu'on appelle souvent parfois l'école romaine de théologie. Donc, l'école romaine de théologie morale consiste essentiellement à commenter les textes du magistère, à les illustrer, à les exemplifier, hein, pour que tout le monde comprenne bien, au cas où on ne comprend pas. Et vous avez un deuxième courant qui a été par exemple très représenté en France, en Allemagne, enfin voilà, qui est une théologie qui essaye de renouveler l'acte théologique en s'appuyant sur des sciences extérieures comme les sciences humaines et sociales. Hein, mais ces deux courants cohabitent plus ou moins bien, le second courant n'est pas toujours facilement accepté par le Vatican. Hein. très nettement. Le premier courant, pour faire vite et pour caricaturer, le premier courant en théologie morale est très fondé sur la morale naturelle, continue à être fondé sur l'idée de morale naturelle, alors que le second courant va s'intéresser aux conduites historiques des personnes, à leur mûrissement, leur maturation, leur développement dans des contextes et des situations particulières. C'est ce qu'on appelle la morale contextualisée, la morale contextuelle, pardon, ou la morale situationniste. Voilà, ça c'est le deuxième courant. Le premier courant, je vous dis, c'est l'école romaine de théologie, donc la théologie morale, dans ce courant-là, n'a de sens qu'en illustrant l'enseignement du magistère. Et il y a des tensions dans ces deux courants. On ne peut pas dire que, de ce point de vue-là, le Concile Vatican II ait été particulièrement bien reçu. C'est-à-dire que le travail est encore largement à faire. Je ne sais pas si vous avez... Il y a une question d'actualité qui illustre très bien ça. Le Vatican a sorti, il y a, je ne sais plus, un mois ou deux, une note sur l'homosexualité, et cette note est en train d'exploser en vol dans certains épiscopats, puisque des théologiens, des prêtres refusent cette note, vous voyez, hein, et se mettent, vous avez peut-être vu ça ces jours-ci, par exemple, à bénir les couples homosexuels, surtout en Allemagne, hein, mais également, j'ai vu ça il y a quelques temps, là, il y a quelques jours, en Suisse, je crois. Bon, voilà. Et donc, ça illustre très bien ce que je suis en train de vous dire. Certains théologiens vont aller dans ce sens-là, hein, une espèce de voilà. Et d'autres vont refuser absolument ce type d'actualisation de la théologie et vont rester de très bons commentateurs de la note du Vatican. Donc là, il y a vraiment une tension entre ces deux écoles, c'est tout à fait net. On retrouverait la même tension, vous savez, chez les biblistes, hein, ou les exégètes, hein. Il y a aussi ça. Théologie sacramentaire, je ne peux pas vous dire, mais si, théologie sacramentaire, oui, bien entendu, hein. Vous avez une école de théologie sacramentaire, voilà, qui va se contenter de la théologie thomiste, c'est-à-dire d'une théologie fondée sur Aristote, beaucoup, hein, et puis vous avez une théologie sacramentelle qui va être beaucoup plus sensible aujourd'hui aux questions, aux sciences extérieures, et qui va par exemple insister sur la dimension symbolique des sacrements, hein, etc. Donc, ce frottement, si vous voulez, entre ces frictions entre les deux voies de la théologie, ils existent en théologie morale, ils existent dans d'autres disciplines que la théologie morale. Ça va? Alors, on va arrêter là parce que je commence à cligner des yeux, mais le personnage dont je vais vous parler la prochaine fois, je vais juste le nommer parce que c'est celui qui illustre le mieux cette grande fracture de la théologie morale après Vatican II. C'est au XIVe siècle, c'est un certain Guillaume d'Ockham. Guillaume d'Ockham, alors Ockham, ça s'écrit, il y a deux orthographes, O-C-A-M. Et parfois, on l'écrit O-C-K-A-M, Guillaume d'Ockham, qui lui-même a fondé son propre courant de théologie, puisqu'on a parlé de l'ockhamisme. Et la théologie de Guillaume d'Ockham est une interprétation très fautive de la théologie morale de Thomas, et je vais vous dire pourquoi la prochaine fois. Mais c'est avant tout la théologie morale d'Ockham qui a pénétré notre théologie jusqu'à aujourd'hui. Et donc, moi, je trouve qu'entre saint Thomas d'Aquin et aujourd'hui, il y a eu des filtres déformants, dramatiques, dont la théologie ne s'est jamais remise. Et le filtre le plus plus déformant, c'est Guillaume d'Ockham, et je vous dirai pourquoi la prochaine fois. Parce qu'à mon sens, on ne s'en est pas remis. Alors, il serait intéressant de voir, par exemple, dans un petit travail à faire, qui serait intéressant, c'est de prendre les textes du magistère, les textes récents, un ou deux textes de morale, souvent un texte de Jean-Paul II, ou un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et puis vous essayez de, mais ça suppose quand même de les connaître un peu, de vous dire, mais quel est le courant thomiste dont se sert le magistère? C'est-à-dire, est-ce que le thomisme dont se sert le magistère, c'est vraiment Thomas d'Aquin, ou est-ce que c'est un Thomas d'Aquin revisité par des commentateurs, des commentateurs ultérieurs qui l'ont plus ou moins trahi? Et ma réponse, c'est que, par exemple, on voit très bien dans l'encyclique de Jean-Paul II qui s'appelle « La splendeur de la vérité », mais également dans celle qui s'appelle « La foi et la raison », que le thomisme qu'utilise Jean-Paul II, c'est le thomisme qu'il a connu, lui, probablement le thomisme qu'on lui a enseigné, ou qu'il a lu, bon, et c'est un thomisme complètement avachi. C'est le thomisme de, c'est juste avant Vatican II, si vous voulez. Et on pourrait faire le même exercice dans le catéchisme de l'Église catholique. Là, à mon avis, ça résiste un peu mieux à la critique. Mais enfin, quand même, on pourrait faire l'exercice pour le catéchisme. Dans le catéchisme, quel thomisme est en usage?
Ils en sont pas conscients.
Si, ils en sont parfaitement conscients, je pense. Mais comme disent les enfants, c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est-à-dire le thomisme, à mon avis, qui est en usage dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est un grand fourre-tout. Donc vous avez, à mon avis, plusieurs thomismes. Mais vous avez un thomisme qui, si vous allez voir les articles sur ce qu'ils appellent la moralité de l'acte humain, dans les numéros 2005, 3000, enfin, vous pouvez aller voir ça, la moralité de l'acte humain, écoutez, c'est un thomisme du début du XXe siècle. C'est pas faux, si j'ose dire, je ne me permettrai pas de dire que c'est faux, mais c'est un thomisme qui est quand même assez loin du fameux équilibre de la somme de théologie. Alors, heureusement, dans le catéchisme, il y a d'autres choses, il parle des vertus, donc le catéchisme de l'Église catholique, c'est un peu un fourre-tout. Mais il y a aussi de bonnes choses, je ne sais pas comment dire ça. Mais chez Jean-Paul II, moi je suis un peu plus soupçonneux avec Jean-Paul II, parce que j'ai quand même pas mal travaillé ses encycliques, et on voit bien que le thomisme qu'il utilise, c'est un thomisme abattardi, ce n'est pas du tout la grande école de Thomas d'Aquin. C'est une certaine lecture de Thomas d'Aquin. Ça, je ne sais pas si Jean-Paul II s'en est rendu compte, mais... en tout cas ceux qui ont écrit l'encyclique, parce que vous savez que les encycliques sont signées par les papes, mais en général elles sont préparées par d'autres, ils y mettent parfois leurs propres réflexions, mais les papes n'écrivent pas l'intégralité des encycliques qu'ils publient, c'est évident. Mais le thomisme qui est en usage dans les encycliques de Jean-Paul II, j'ai vu que c'était pas le meilleur. D'où l'intérêt de faire de l'histoire. Sinon, on ne comprend rien. On ne comprend rien au film. On ne peut faire de la théologie morale qu'en faisant de l'histoire de la théologie morale, parce que les grandes notions se sont mises en place peu à peu. Ça va? Bon, écoutez, il est presque -5. S'il n'y a pas de questions, plus de questions... apparemment, il n'y en a plus. Je vous propose d'arrêter là.
J'avais juste une remarque, mais
oui, est-ce que
le thomisme abattardi, comme vous dites, ce n'est pas aussi le meilleur moyen de prendre le pouvoir sur les gens? Parce qu'à partir du moment où on devient juriste, c'est une vision plus simple, j'ai fait mal, je n'ai pas bien fait, vous serez puni comme ça. Enfin,
oui, c'est la morale réduite à la morale du surmoi.
Oui.
Mais je ne peux pas, j'en sais rien si c'est un moyen de contrôle. Michel Foucault dirait que, pour répondre à votre question, que c'est un système de pouvoir. Donc, bien entendu, dans la morale, Le risque de la morale, c'est d'être un système de pouvoir, ce qu'on appelle parfois aussi le contrôle des consciences. Et pour contrôler les consciences, c'est plus facile de se centrer sur la question de la loi plutôt que sur celle plus exigeante, en fait, des vertus.
Oui.
C'est évident, ça. Et en particulier, la confession, ça c'est bien documenté en histoire, la pratique de la confession a aussi servi à contrôler les consciences, bien entendu. C'est là, pour le coup, de très nombreux travaux, pas seulement Jean Delumeau, mais les travaux dans la foulée de Jean Delumeau ont très bien montré à quel point le sacrement de confession, enfin de réconciliation, peu importe comment on l'appelle, a aussi servi à contrôler les consciences. C'est ce qu'on a appelé la morale des confesseurs, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus de morale que pour aider les curés à confesser les pénitents. On vous a dû faire le coup quand on vous a enseigné le sacrement de réconciliation. L'histoire du sacrement de réconciliation est indissociable de l'histoire des manuels de confession qu'on appelait les pénitentiels. Donc, les pénitentiels possédaient des listes de confession avec des tarifs. On a dû vous raconter ça. Hein. Chaque péché était tarifé. Eh bien, ça, c'est l'application directe de cette morale complètement avachie qui ne servait plus qu'aux minores, et les minores, c'était les prêtres qui confessaient. Et comme tout le monde était censé se confesser depuis le Concile de Trente, au moins une fois à son curé, avant Pâques, et plus si affinité, eh bien, la morale pouvait aussi fonctionner, malheureusement, en effet, comme un système de pouvoir, un système de contrôle. Mais vous voyez qu'en faisant ça, on était très, 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 très loin des pères de l'Église et très, 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 très loin de saint Thomas. C'est pour ça que je trouve une très bonne fidélité, finalement, entre Augustin et Thomas, parce que ce n'est pas les mêmes méthodes, pas du tout, mais ça se tient. Parce que l'objet de la morale, c'est le bonheur, donc en Dieu. Donc, c'est, si j'ose dire, c'est la grande théologie. Bon. Mais à partir du moment où on s'intéresse plus au bonheur, à la béatitude, 50 ans après saint Thomas, on va introduire un ver dans le fruit, on aura beaucoup de mal à s'en remettre, et je ne sais même pas si Vatican II aura réussi à rééquilibrer les choses. Hein, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Oui. Il ne reste plus que deux cours avec vous.